Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Fauteuil. Nous sommes en semaine 7, je me tape l'épaule dans les étagères et j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue à tous au plat, je vois que tout est en place, c'est nickel. Et regardez, il y a même en plus le petit inclus, une communication commerciale qui est affichée sur YouTube maintenant parce qu'on fait ça dans les règles de l'art. Il va falloir arrêter de faire semblant que je suis en retard sur le chat parce qu'il est 18h00 et j'ai une montre et tout est parfaitement à l'heure. Bonjour et bienvenue à tous, Degan, Don SNJ, Clément, Flo, Orlin, Tommy, Degan, Gus, Tony, Pastaga, Jogactu, Sarah, voilà, pas mal, hop là, Sarah, j'ai dit, Nico, etc. Bonjour à tous, encore une fois. Faut arrêter de dire que je suis pas à l'heure, je suis à l'heure toutes les semaines parce que les émissions font plus d'une heure, j'ai vérifié sur les replays. Donc, bienvenue à tous, l'émission du jour qui vous est présentée donc par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Je vais même mettre le micro un peu plus droit. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Unibet, je vous mets le lien sur le chat. Si vous souhaitez nous soutenir, ça se passe aussi sur Tipeee avec tipeee.com/touchdownactu. Je vous mets le lien aussi et je vous mets le petit sous-vert du mois d'octobre qui est toujours là. Et surtout les sous-verts Halloween alors sont disponibles à la commande et ils seront livrés dès qu'ils arriveront, c'est-à-dire que normalement on doit les recevoir le 28. Et ils partent dès le 29. Alors pourquoi expédier les sous-verts d'Halloween le 29? C'est parce que pour l'instant je ne les ai pas, donc je peux pas vous les montrer, ils sont à l'imprimerie, mais on a lancé le process, comme ça ils seront expédiés dès que je les ai. Mais voilà, je peux pas vous dire mieux, ils sont à l'imprimerie, dès que je les ai, ils partent. Le sommaire du jour, nous allons parler tight end puisque c'est le National Tight End Day. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, sachez que moi non plus. J'ai appris ça cette semaine, c'est un membre de l'équipe TDA, c'est Sébastien qui me l'a dit ça je crois. C'est le National Tight End Day, alors tu peux faire une émission sur les tight ends, il a eu bien raison. Bonsoir à Patchy, qui vient d'arriver, Clément, qui dit qu'il a commandé les sous-verts d'Halloween. Les sous-verts dédicacés d'Egan, si vous voulez qu'ils soient dédicacés, mettez-le vous pouvez mettre un message quand vous typez. Si vous voulez vraiment qu'ils soient dédicacés, on peut les mettre et on peut les dédicacer éventuellement. Pour les London Marmites, Lawrence ou Herbert? Herbert, c'est pas mal pour l'instant, donc on va voir. Alors, Patchy, le 4 des Raiders, il est pas nouveau, mais je crois que c'est juste que le plan était plus serré la semaine dernière. Voilà, je crois que c'est ça. Mais il a toujours été là, avec Brandon Jacobs contre les Bears à Tottenham en 2019. Quel jour je viens d'apprendre que j'allais jouer tight end cette année, c'est un signe, Guillaume. Ah, bonjour à la bière autrement, à Ben, qui est sur le chat également. Bonjour à tous les sous-verts, c'est super, mais les verts TDA, alors c'est un peu plus compliqué, les verts TDA, alors là, il y a un peu plus de, de logistique, mais on réfléchit à d'autres trucs. J'ai dit Brandon Jacobs, je suppose, puisque quelqu'un me dit encore Josh Jacobs. C'est évidemment Josh Jacobs. Je suis bloqué sur le joueur des Giants de 2008. Que je vous dise pas de bêtises. Donc vos questions, le débrief de jeudi, tout ça c'est dans l'émission également. Bonjour à Van, à Marin et à tous ceux qui arrivent. Le joueur mystère. Le joueur mystère, 25€ de freebet. Alors quelqu'un m'a fait remarquer par mail, je suis désolé, j'ai pas noté le nom de la personne d'ailleurs qui me l'a dit. Bref, quelqu'un m'a envoyé un mail en me disant tu n'expliques pas assez les indices. Enfin, tu donnes la réponse, mais tu n'expliques pas les indices qui ont mené à la réponse. Donc je vais tenter de le faire mieux pour les prochaines fois. Le joueur mystère la dernière fois c'était Tori Holt, je crois. Non, c'était Jared Goff. Bref, il y a eu un vainqueur. Donc félicitations. J'ai plus les indices, donc promis pour les fois d'après, j'expliquerai. Nouveau joueur mystère, oui c'était Jared Goff la semaine dernière, c'est ça. Donc félicitations à Armadoc qui a reçu un mail normalement. Un briquet TDA pour la pause club. Bah non, Dax, on va pas cautionner la consommation de cigarettes quand même. À la limite les bières, mais pas la clope quand même. Donc Nouveau joueur mystère, vous envoyez un mail à concours@touchandactu.com avec votre pseudo Unibet et la réponse. Le premier indice de la semaine, c'est 126. Il y a des stickers TDA, tu peux les mettre où tu veux. Oui, un mug, j'achète direct. Ouais, alors je sais qu'il y a pas mal de demandes pour le mug. Il faudra qu'on voit quand même, parce que ça, où ça a l'air. Mais le problème, encore une fois, c'est plus le transport. Il faut essayer de faire un truc un peu propre. Donc, on commence par vos questions, si vous voulez, là. Ouais, le briquet, c'est pour le réchaud du camping ou allumer le feu de bois, hein, après. On va faire, vous savez, les allumes-gaz TDA avec le petit manche, là, clic-clic avec le petit... très pratique pour allumer le poêle à bois. Peut-on commander stickers de soulever la porte-clé? Oui, tout est sur Tipeee. En un seul type, oui, bien sûr. Vous pouvez. Il suffit de choisir dans les contreparties, hein, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Un mug de fauteuil. Ouais, c'est vrai que ce serait pas mal. Après, on boit pas trop de café dans le fauteuil, puisque c'est le soir, ce serait plus des shops, quoi, le fauteuil. Bon, c'est, non mais encore une fois, c'est pas mal, mais vraiment tout ce qui est fragile, c'est un peu compliqué, parce que si vous faites un type, vous verrez que c'est envoyé par mes blanches mains. Je suis pas le meilleur pour emballer les trucs dans le monde, et ce serait un peu compliqué à ce niveau-là. Donc voilà, on va voir, mais les trucs, des nouveaux polos TDA, ouais, après tout ce qui est fringues, il y a les problématiques de stock et de taille qui sont un peu compliquées. Donc voilà, ça c'est un peu différent aussi. Posez vos questions sur le football américain peut-être et sur ce qui se passe en ce moment. Une cool casquette. Ouais, la casquette, pareil, il faut trouver un moyen de la faire produire. Et du coup, maintenant c'est vrai qu'un snapback avec des réglages, mais c'est pareil, bon, il y a des budgets, des stocks. Voilà, je vais pas vous mentir, on va aussi un peu au plus simple, mais voilà. Les services de vente de goodies existent. Non, mais je sais qu'ils existent, mais après, faut aussi que ce soit rentable, hein. Je vais pas vous cacher qu'on peut pas non plus accumuler des stocks de plein de trucs. Donc voilà. Donc, Darren Waller n'est-il pas meilleur de la NFL? On va y venir. Record du premier coach viril plus tôt dans la saison. Alors ça, je sais pas, Degan, je veux pas mentir. Donc, alors, les rumeurs. Alors déjà, je vais vous dire, sur la trade deadline, on va en parler là, hein, évidemment, on va pas éluder tout ce qu'il y a comme rumeur dès maintenant. Mais on fera une spéciale trade deadline dimanche prochain, puisque dimanche prochain, on sera le 31 octobre, ce sera Halloween. Serais-je déguisé? Donc ce sera Halloween et ce sera surtout 2 jours avant la trade deadline, donc a priori la semaine prochaine on fera une émission spéciale trade deadline, soit avec les gros échanges qui seront arrivés s'il y en a eu, soit avec les possibles gros échanges, voilà, on fera un thème autour de ça. Le grand ménage à Washington, on dit Washington maintenant, Clem. Bonne nouvelle ou chasse aux sorcières? Je sais pas, il n'y a pas eu de grand ménage, hein, pour l'instant à Washington. Pour l'instant il y a une enquête sur des conditions de travail et de harcèlement sexuel quand même très généralisé visiblement du côté de Washington. Je suis pas persuadé que ce soit une chasse aux sorcières. La NFL fait rarement des choses pour s'éclabousser comme ça juste pour le plaisir. Donc non, il y a l'air d'y avoir un environnement de travail ultra toxique, que ce soit Bruce Allen, Dan Snyder, etc. Bon voilà, on va attendre de voir quand ça pète. Est-ce que je vois les Cardinals perdre d'abord contre les Packers ou les Rams? Question de Patchy. On verra bien, mais ça va être des matchs difficiles. Après, c'est pas dit qu'ils les perdent, hein, donc ce sera des beaux matchs. Alors, qui sera le plus gros joueur à bouger sur la trade deadline selon moi, demande Gatling 45. On va pas se mentir, hein, Deshaun Watson est dans les tuyaux pour éventuellement bouger. Donc on va voir. Je remonte un petit peu parce que j'avais. Ah, Isaac Hertz au Cardinal, bon trade, ça fait 2 semaines que je pleure, dit Matrix Angel. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé dans l'émission, il est un peu sous-côté Isaac Hertz finalement parmi les tight ends alors qu'il a fait des grosses choses. Bah c'est impressionnant ce que fait Arizona en tout cas pour renforcer toujours plus une équipe qui est déjà très très forte. Donc voilà, c'est vraiment costaud. C'est aujourd'hui une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe de la NFL, hein, Arizona. Donc quand ils ajoutent encore comme ça, c'est toujours impressionnant. Quel gros transfert donc je vois qui peut arriver. Alors après, encore une fois, hein, la trade deadline en NFL, c'est quand même souvent beaucoup de bruit pour pas beaucoup de mouvements. Bon, on va voir. Le chat a sauté chez moi, j'étais sur une question, où est-ce qu'il est passé? Peux-tu expliquer quel intérêt les Dolphins peuvent avoir pour Deshaun Watson alors qu'il y a 90% de chances qu'il ne joue plus jamais, dit Flo07? C'est pas dit. Il y aura sûrement des conditions attachées à l'échange, et on a déjà vu des joueurs NFL se sortir de choses plutôt compliqué. Donc je ne sais pas, je vous dis pas, j'en sais rien, hein, mais Mais voilà, je suis pas persuadé qu'on ne revoie plus jamais Deshaun Watson en NFL. Donc je sais pas, ils vont mettre des conditions là-dessus, ils peuvent le faire venir s'il y a investigation, etc. Mais pour l'instant, c'est beaucoup de procès et de plaintes au civil, si je dis pas de bêtises. Alors il y a un peu de pénal, mais enfin il y a un peu d'enquête. Bon voilà, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je suis en train de vérifier. Eh, j'avais pas mis de poste spécial pour dire que le fauteuil était en direct sur Facebook. Je me disais, il y a un peu moins de monde aujourd'hui. Je vais remettre des liens en même temps. Je me permets en même temps que je vous parle. J'étais persuadé de les avoir programmés. Mon mauvais, comme on dit. Donc, Deshaun Watson, ouais. Et du coup, c'est le moment de faire un point sur la rumeur Deshaun Watson Miami. Bah, évidemment qu'ils ont un intérêt. Si on parle purement sportif, évidemment qu'ils ont un intérêt. Là qu'on me dise pas, tu tapes sur Tua Tagovailoa, etc. Il est évidemment bien, bien, bien meilleur que Tua Tagovailoa, Deshaun Watson. Il y a pas photo. C'est deux mondes différents, c'est deux galaxies différentes en termes de quarterback. Donc voilà. Il y a même pas. Il y a même pas comparaison quoi au moment de regarder. Donc oui, c'est normal et légitime qu'ils aient un intérêt pour Deshaun Watson s'ils peuvent l'avoir pour pas trop cher ou avec des conditions qui leur permettent de s'assurer éventuellement de pas perdre grand-chose s'ils ne rejouent pas. Ce sera surtout ça. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu dissipé. J'ai en même temps posté sur Twitter. Encore une fois, j'étais persuadé de l'avoir fait, ça doit être l'âge, je perds la tête. Donc, hop là, question suivante. Josh Gordon, il rejoue quand? Bah, je suppose qu'il va monter en puissance pour l'instant. La semaine dernière, on était avec deux indices, oui, mais le deuxième, hop, il était en fin d'émission. Le deuxième indice. Un trade de Seattle possible selon toi dans la deadline? Si oui, pour quel joueur ou quel poste? Demande Guillaume. Après là, la saison elle s'annonce quand même pas très très bien avec l'absence de Russell Wilson. Donc je sais pas s'ils vont échanger immédiatement des choses. Ils ont le temps d'attendre. Watson chez les Bears pour aider Justin Fields. Là, ça paraît très très peu probable. Ils vont pas coller un quarterback maintenant. À quel joueur tu souhaites de changer d'équipe? Alors, on va faire les joueurs à qui je souhaite de bouger et tout ça la semaine prochaine. Là, on est. Mais je sens évidemment que les trades, c'est toujours quelque chose qui vous intéresse. Marcus May est annoncé partant des Jets, dit Latrell. Oui, mais je crois qu'il a dit qu'il voulait rester. Alors évidemment, ils sont toujours polis, hein, ils disent qu'ils veulent rester. Que va devenir Tua si signe Wilson pour revenir à Miami? Évidemment, ils peuvent l'échanger, ils peuvent le. Encore une fois, c'est pas dit que Watson joue tout de suite, c'est pas dit qu'il soit autorisé. La NFL devra sûrement prendre une décision s'il est échangé, parce qu'aujourd'hui, Watson, c'est un joueur comme les autres, il est payé, il est juste pas activé par son équipe. Si Miami dit nous on le fait jouer, la NFL va peut-être réagir, va peut-être dire non, nous on le met de côté, comme ils ont déjà fait avec Adrian Peterson ou avec d'autres joueurs qui étaient impliqués dans des trucs un peu compliqués. Donc voilà, c'est un problème très large. Encore une fois, je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine parce que ça aura bougé dans un sens ou dans l'autre, ou qu'on sera vraiment plus proche de quelque chose. Je repose la question qu'Alain ne voit jamais. Pourquoi les Lions restent aussi mauvais malgré tous leurs hauts choix de draft? Bah, parce qu'ils font des mauvais choix, Jean-Baptiste. C'est aussi simple que ça. Il y a plein d'équipes qui restent très mauvaises malgré des hauts choix de draft parce qu'elles font des très mauvais choix de draft. C'est parfois aussi simple que ça. Regardez Jacksonville qui prend Blake Bortles en 3, je crois, à la draft. Voilà, des choses comme ça. Et là, vous allez me dire, oui, mais ils jouent finale de conf avec Blake Bortles, etc. Oui, mais ils retombent aussi immédiatement derrière parce qu'ils n'ont pas de quarterback. Donc voilà, mais pour rester dans les équipes de fond de tableau, bah oui, Détroit avait un franchise quarterback pour le coup, mais ils ont jamais réussi à l'entourer, ils ont pris plein de décisions idiotes, même si ils ont joué des playoffs avec Matt Stafford une fois ou deux. Mais voilà, il y a des équipes qui restent au fond de tableau parce qu'ils sont mal gérés. Les Browns ont eu des choix de draft très très haut pendant des années et des années et des années et des années, jusqu'à ce qu'ils arrivent à construire un effectif cohérent. Avoir des hauts choix de draft, honnêtement, c'est pour ça que le tanking c'est un truc complètement idiot et que ça n'existe pas vraiment en NFL. Parce que voilà, ça apporte rien en vrai. Avoir des hauts choix de draft, c'est bien. Si tu fais pas les bons, ça sert à rien. Alors, tuk tuk tuk, je redescends. Un petit peu, quel joueur? Whitney Mercilus, bon renfort pour les Packers, demande Orlin. Bah, Mercilus, il avait un problème de système hein, à Houston, il était vraiment pas dans un système qui lui convenait. Donc là, visiblement, il sera peut-être un peu mieux à Green Bay, mais ça reste à voir. Et c'est plus le même joueur qu'à sa meilleure époque. Washington, saison de reconstruction, bah, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que Washington, c'était pas censé être une saison de reconstruction. C'était censé être l'an dernier la saison de reconstruction. Cette année, ils avaient joué les playoffs l'an dernier. Ils étaient censés être encore meilleurs cette année. La défense est quand même une déception assez totale. Bon, bah voilà. Hein, à partir de là, c'est le problème, c'est ça, c'est qu'ils ont leur défense qui devait être leur point fort est une catastrophe. Et comment dire, ils ont pas de quarterback vraiment franchise. Taylor Heinicke est honnête, mais voilà. Ryan Fitzpatrick est honnête, et voilà. Donc bon. Est-ce que je suis un peu branché Formule 1, car là il y a le Grand Prix des USA en même temps à 21h. Berbiel, je suis désolé, pas du tout. Voilà. J'ai arrêté à Michael Schumacher. Quand tu vois à quelle place sont draftés Jackson et Mahomes, tu comprends que les hauts choix de draft ne sont pas indispensables pour un quarterback, dit Mbappé. Oui, après, attention, évidemment, des fois il y a des très bons choix du top 10, hein. Je dis pas que c'est qu'on doit faire sans obligatoirement, ou qu'on doit obligatoirement pas choisir un quarterback dans le top 10. Loin de moi cette idée. Andrew Luck était un très bon quarterback du top 10. Ben Roethlisberger, Eli Manning, cette QV magique là avec Philip Rivers. Il y a plein de très bons quarterbacks qui sont choisis très haut. C'est pas le problème. Mais encore une fois, il y a aussi des bons choix à faire qui sont des fois pas forcément qui sont pas forcément faits au premier tour ou très haut dans le premier tour. Il y a des équipes qui choisissent des perles qui sont un peu plus bas. Mahomes c'est 10e choix, c'est pas bas non plus. Voilà, Mahomes c'est très haut. Il y a des choix très très haut. Hein. C'est pas le problème. Puisqu'on parle de draft, Belichick est-il un mauvais GM à la draft ou alors image biaisée car ça fait longtemps qu'il a des mauvais choix. Clems, moi par exemple, je fais partie de ceux qui disent que les Patriots sont quand même un petit peu traités gentiment sur leur bilan de draft. Je trouve qu'ils ont un bilan de draft assez pauvre depuis quelques années. C'est difficilement accepté quand on parle de Bill Belichick. Je trouve que les Patriots ont un bilan de draft assez pauvre sur ces dernières années. Oui, il faut le dire. Ils produisent quand même maintenant peu de pro bowlers ou peu de all pro sur des drafts. Ça, en tout cas, moins qu'ils l'ont fait à une époque où ils gagnaient justement les Richard Seymour, les Vince Wilfork. Évidemment, qui étaient des choix hauts, hein, Wilfork. Mais voilà, ils arrivaient quand même à trouver des pépites ou des mecs qui apportaient. Ils ont une période, je trouve, un peu plus creux. Ils sont catastrophiques pour drafter des receveurs. Il y a eu Sonny Mitchell drafté au premier tour. Il y a des choix quand même un peu comme ça. Bon, voilà. Alors, vous avez, oui, mais Mitchell, il a gagné des titres, etc. Ouais, enfin bon, est-ce que c'était vraiment l'acteur numéro un et qu'il fallait, moi, je me rappelle plus de James White que de Sonny Mitchell, si vous voulez. Donc bon. Wilfried, pourquoi la draft est aussi importante en NFL par rapport aux autres sports? Bah, tout simplement parce que les joueurs sont quand même plus... Il y a des carrières plus courtes hein, en NFL, donc il y a plus de renouvellement, il y a beaucoup plus de besoin de sang frais, il y a 7 tours, donc il y a plus de joueurs, il y a tout cet apport-là, et ils apportent plus directement que sur du basket, où bah, il y a que 5 joueurs sur le terrain, et où ils feront moins vite la différence, parce que, voilà. Hop là, je redescends un petit peu... Oui, en NBA, c'est plus impactant. Oui et non, Nicolas, la draft en NBA, il n'y a pas non plus 5 ou 10 joueurs. Il n'y a pas 5 ou 10 joueurs qui vont avoir un impact immédiat tous les ans. Hein. Les Lions sont aussi poursuivis par la malchance, CF la défaite contre les Ravens. Oui, après, voilà, ils sont à 0-6. Hein. Vous avez misé combien sur votre YOLO Flo07, bah, j'ai peur que ce soit compliqué quand même. Gibbs, pour le coup, je trouve la draft NFL moins aussi importante sur le 4 pick. Quand on voit NBA où ils misent vraiment sur le filet de pick plus que la NFL. Ah, sur le first pick. Ouais, mais bon, encore une fois, il n'y a pas des mecs qui bouleversent la NFL tous les ans quand même. La NBA tous les ans. Je fais la comparaison au basket parce que j'ai suivi un peu quand même à un moment. Vous voyez, au bout d'un moment, les franchise players aujourd'hui, c'est des mecs qui sont là depuis un moment, quoi. Les LeBron James, les Stephen Curry, les Kevin Durant. Voilà. Il n'y a pas des mecs qui bouleversent la NFL. Il y a quand même plus de joueurs d'impact sur une draft NFL, beaucoup plus. Je suis désolé. Les Broncos ont perdu parce que Alain a parié sur eux, c'est très possible, évidemment. Et évidemment, hein, Ruizard le dit, un effectif NFL c'est 53 joueurs, donc ça demande beaucoup plus de vivier là-dedans. Préférence pour le nouveau nom de Washington entre la shortlist des 8 noms: Red Hawks, Defenders, Armada, President, Brigade, Commanders, Red Wolves, Washington Football Team. Je sais pas, Red Hawks, je crois qu'il y avait une histoire, non, ou Red Wolves, je sais pas. Moi, je m'en fous. En fait, on pourrait les appeler Washington Football Team, Boston Football Team, enfin, comme on a Olympique de Marseille, Milan AC, Paris Saint-Germain. Enfin, c'est le nom de la ville, quoi. Moi, ça me fait toujours rire quand les médias US sont perdus et disent la Football Team. C'est comme si, je sais pas, on disait l'Olympique pour Marseille, ou alors, c'est, je sais pas, non, ou le Football Club, voilà, pour Metz, genre le Football Club. Mais non, mais c'est Metz. Dites Washington. C'est pas grave, quoi. On s'en fout qu'ils aient pas de surnom. Je sais pas. Moi, ça me honnêtement, parce que c'est toujours la même chose, ça va dire ouais, mais c'est ringard et tout, etc. Mais en vrai, enfin, je sais pas, Eagles, Falcons et tout ça, si on les sortait aujourd'hui et qu'aucune équipe était appelée comme ça, on dirait c'est genre hyper basique, quoi. Donc, et même les logos, hein, Eagles, Falcons et tout, enfin, quand le nouveau logo de Washington va sortir, on va tous dire ah ouais, c'est, on dirait un truc random de Madden Création ou de 2K. Mais en vrai, est-ce qu'il y a beaucoup de logos qui ont l'air révolutionnaires comme ça? Ouais. Washington Saint-Germain, c'est pas mal, Flo 07. J'espère surtout qu'ils vont pas garder Football Team, ça fait con. Mais encore une fois, je vois pas en fait en quoi c'est mieux de s'appeler les Flying Cochons d'Inde de Washington, si vous voulez. Donc, ce qui serait très bien en soi. Flying Cochons d'Inde, c'est mon choix pour Washington. Donc, faut surtout Metz, ça les énerve beaucoup. Ah, Metz, bon, ça je connais pas. Non, mais alors c'est ça, Degan a raison. Si l'équipe s'appelle Washington, ils pourront jamais déménager. C'est surtout là, en fait, le truc des surnoms en NFL et dans le sport américain en général. Il faut pas qu'il y ait le nom de la ville, parce que comme c'est des business et que c'est des franchises, si c'était les noms de la ville, les mecs pourraient jamais faire pression pour avoir un nouveau stade et déménager. Donc, il y a quand même ce côté, la vraie tradition US, c'est ça, en fait, hein, des surnoms. C'est d'avoir un surnom pour pouvoir se casser où on veut. Donc, moi, franchement, qui s'appelle Defenders, Cochon d'Inde ou ce que vous voulez. Voilà. Flying Guinea Pig, c'est génial. Bill Sperky, on est d'accord. Flying Guinea Pig, c'est bien. Moi, et ça ferait des logos pour le coup un peu badass, quoi. Un cochon d'Inde qui vole. Je sais pas si on lui met une cape ou un casque, mais franchement, moi, je suis, ah ouais, avec les deux points en avant comme ça et tout, ce serait mortel. Flying Cochon d'Inde, voilà, on a trouvé, vous voyez. On les appelle WFT ou WFT. Ou WTF, ouais, alors par contre c'est vrai, comme l'abréviation WFT, Washington Football Team, je vois toujours what the fuck quand je l'écris, ça, j'y arrive pas ça. San Diego Washington Football Team, ouais, ça ce serait bien, vous voyez, par exemple. Bien sûr, regardez. Non mais oui, on a perdu. Ben oui, je suis désolé. Alors, on va arrêter les comparaisons NBA parce que j'aime bien le basket, hein, mais je pense qu'une bonne partie de nos auditeurs s'en foutent. Donc voilà, mais on est d'accord, je vais pas rentrer dans les débats de Donovan Mitchell, Zion, Doncic, etc. Mais c'est un par an là que vous me citez, hein, les mecs, par contre, sur la NBA. Hein. Mitchell, Zion, Doncic, Young, ils sont là depuis combien de temps? Donc y a très rarement des mecs qui arrivent et qui ont un impact jour 1, quoi, ou jour 2, comme un Justin Herbert l'an dernier, ou des mecs comme ça. Bon. Il y en a de temps en temps, mais voilà, mais c'est dur de comparer un sport où il y a 5 mecs sur le terrain et un sport où il y a 53 dans l'effectif. Les Evreux Boys, oui, pourquoi pas. Vous avez pas un graphiste? Ouais, non, mais le cochon d'Inde volant, ça me chauffe, hein. Je vais demander au graphiste TDA, on en a quelques-uns. Je sais pas s'il y en a un qui sera ambiancé là-dessus. Bon, 18h22. Oui, il y a des équipes qui changent de nom en changeant de ville, mais pas tant que ça, hein. J'ai pas l'impression. Enfin, les Rams sont pas changés de nom, les Raiders sont pas changés de nom, les Chargers sont pas changés de nom. Qui d'autre a déménagé? Regardez en baseball, les Dodgers sont passés de Brooklyn à Los Angeles. Ça fait quand même un petit écart. Ils ont gardé le même nom. Les Lakers de Los Angeles, je vous rappelle qu'ils s'appellent les Lakers parce que c'est la région des grands lacs, parce qu'ils étaient à Minneapolis. Il n'y a pas des masses de lacs à Los Angeles. Alors il y a un grand lac qu'on appelle le Pacifique, hein, mais sinon les lacs au niveau de Los Angeles, il y en a moins. Alors, la pire équipe de la ligue, est-ce que c'est les Dolphins ou pas? Oui, les Houston Oilers ont changé de nom, tu as raison, FMZ, c'est vrai qu'ils sont devenus les Titans du Tennessee, voilà, les Oilers. Les Baltimore Colts, ils n'ont pas changé de nom, ils sont allés à Indianapolis. C'est quand les Browns ont été piqués à Cleveland et qu'ils sont partis à Baltimore que là, ils sont devenus les Ravens. Mais parce qu'ils ont laissé le nom à Cleveland pour être sympa. Mais là, il y avait quand même une entourloupe commerciale pas très sympa non plus, hein, si vous voulez. Donc, il y a les Seattle Supersonics, mais là encore, c'est un accord, je crois, où le nom a été laissé au cas où une nouvelle franchise soit recréée. Il y a eu ce type d'accord. Encore une fois, avec les Browns, en fait, ça a marché. Ils avaient laissé le nom pour que si la ville récupère une franchise, je me demande même si la NFL s'était pas plus ou moins engagée d'ailleurs avec Cleveland. Mais comme le proprio était, bon, je vais chercher un mot pas trop fleuri, pas un mec sympa, il s'est barré quand même avec l'équipe, si vous voulez, à la base. Donc bon, C'est en train de devenir très sérieux entre les Dolphins et les Texans. Oui, on en a parlé sur le site. Je vous invite à aller les voir. Et encore une fois, en NBA, les Sonics sont devenus le Thunder d'Oklahoma, évidemment, mais ça, c'est parce que le propriétaire des... Alors, il y a un documentaire sur le déménagement des Sonics qui a brisé mon petit cœur, hein, je vous le dis, mais les Sonics en NBA sont devenus le Thunder d'Oklahoma parce que le propriétaire des Sonics, Howard Schultz, le PDG de Starbucks, avait vendu l'équipe à un mec de l'Oklahoma qui était quand même pas quelqu'un de très sympa non plus, j'allais dire autre chose de très très méchant, et qui a déménagé l'équipe évidemment, mais c'est pareil, hein, c'est quand même pas tout à fait dans l'esprit du sport si vous voulez, donc moi je serais plus pour que à la limite on mette pas de surnom, elle s'appelle l'équipe de la ville et elle reste là. Tu as, a-t-il un avenir pour moi, Ding Chavez, footballistiquement ou tout court? J'espère quand même. Non, footballistiquement, on verra bien, mais pour l'instant, ça reste quand même assez moyen, donc on verra bien ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un Kicker's Day, puisqu'on parlait des tight ends? Je sais pas, mais je le fêterai pas. Allez, on passe un peu au débrief, parce qu'il est déjà 18h25. Browns 17, Broncos 14. Alors oui, vous avez peut-être pas envie de parler à fond de ce match-là, parce que c'était pareil, incroyable. Mais c'était jeudi. Quand vous savez plus quoi faire, reposez-vous sur vos forces. Ça marche au tennis, ça marche aussi au football américain. Cleveland l'emporte avec D'Ernest Johnson en leader. D'Ernest qui, vous ne saviez peut-être pas avant ce match, mais c'était le troisième coureur de Cleveland. 146 yards au sol pour lui. Qu'est-ce qu'il nomme qui fait les minima? Il manquait Jack Conklin. Et pourtant, leur identité, c'est le sol. Ils ont bourriné au sol. Ça a marché. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs sans Baker Mayfield. Ça veut dire qu'ils peuvent vivre sur leurs fondamentaux. Ce qui est déjà une bonne idée et une bonne chose quand on est une franchise qui veut prétendre être parmi l'élite. C'est la différence entre les anciens Browns et les nouveaux. C'est une bonne nouvelle pour eux parce qu'ils s'en sortent sans leurs deux coureurs principaux, sans un tackle, sans leur quarterback, avec une défense qui posait des questions quand même dans les airs avant ce match-là. Donc voilà, très très... Alors Keenum, c'est pas un peintre en effet, il a une carrière un peu étrange, hein. Il a joué pour 8 équipes, je crois qu'il était titulaire pour 8 équipes NFL. Il a fait une finale de conf avec les Vikings, mais il a jamais été assez bon pour durer dans ces équipes, donc c'était clairement pas le pire remplaçant avec lequel jouer un match, ils s'en sortent bien avec ça. Et franchement, voilà, ils ont joué sur leurs fondamentaux, la défense a fait le boulot, mais on va pas se mentir, c'est des Broncos avec peu d'options en face. C'est-à-dire que 41 yards au sol, Teddy Bridgewater, quand il faut faire le boulot tout seul, on sait que c'est limité, c'était limité, il peut pas aller chercher ce genre de match. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de points à marquer hein, sur ce match. Hein. Il en marque 14, il faut en mettre 20 quoi pour gagner, il peut pas... Bon, voilà, c'est compliqué pour cette équipe de Denver en attaque. Ça fait 4 défaites de suite alors qu'ils avaient commencé à 3-0. Encore une fois, on l'avait dit, ils avaient commencé contre un calendrier très, 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 très soft, avec des qualités. Le problème, c'est qu'ils ont été rattrapés par les blessures. Quand on a une équipe, je vais pas dire fragile, mais quand on a une équipe qui se repose sur quelques joueurs, on est plus vulnérable aux blessures. Ils ont été vulnérables aux blessures. Ça a été compliqué pour lui. Maintenant, pour Cleveland, il va falloir quand même espérer que ça revienne quand même vite au niveau des blessures. Il y a aussi une fracture, apparemment, en plus, c'est dans l'épaule de Baker Mayfield, donc il va falloir que ça, qu'il se remette bien, visiblement. Ça va être compliqué, il va traîner ça toute la saison quand même, parce qu'il y a une déchirure du labrum, il y a une fracture, il y a plein de trucs, c'est dans l'épaule gauche, alors il lance pas avec, mais bon. Voilà, ça fait une saison longue, il faut qu'ils récupèrent leurs deux coureurs, il y a beaucoup de choses, ils vont vraiment être mis à l'épreuve, c'est une saison difficile, mais ils gagnent, les Browns, ils sont dans la course. Pour les Broncos, maintenant, ça va être un peu compliqué, c'est une équipe où on l'a vu, qui peut gagner des matchs contre des équipes plus faibles, qui devrait pas aller en playoff, qui va même pas jouer les playoffs. Donc ça va être compliqué. Que faire pour les Broncos pour viser plus haut, Nicolas? C'est assez simple, il faut trouver un quarterback. On le sait, c'est-à-dire qu'on l'a dit dans l'émission de mardi d'ailleurs, je crois, comment il s'appelle, Teddy Bridgewater, c'est un pas de côté, quoi. Enfin, alors, non, on avait dit ça pour les Panthers d'ailleurs, je réalise, on avait dit ça pour les Panthers parce qu'il passait de Bridgewater à Darnold, mais Bridgewater c'est un peu mieux que Drew Lock parce qu'il n'y a pas les erreurs, mais c'est pas... Il faut trouver un franchise quarterback. Il faut trouver un franchise quarterback. C'est le problème fondamental de cette franchise depuis que Peyton Manning est parti maintenant. D'Ernest Johnson, il n'était pas en AAF. Oui, D'Ernest Johnson, en effet, il a eu un parcours un peu atypique. Il n'est pas drafté. Il passe par l'Alliance of American Football à Orlando. Il a galéré d'ailleurs parce que je crois qu'il envoyait des mails, des mails et des messages aux équipes d'AF pour essayer de se faire recruter et tout. Enfin, c'est plutôt un beau parcours. C'est plutôt un beau parcours. Je suis un peu inquiet pour les Brands, c'est pas mauvais, mais je vois pas la progression par rapport à l'an dernier. Bizarre. Encore une fois, c'est dur parce que ils ont plein de blessés. Ils ont plein de blessés et ils sont à 4-2. La progression, je sais pas, mais au moins ils arrivent à rester. Et ça, c'est déjà très très bien parce qu'il y a des équipes qui ont du mal à digérer les bonnes saisons. Et les Brands, pour l'instant, digèrent bien quand même. Les quarterbacks pour la prochaine draft, c'est pas le Pérou, dit Jogactu. Oui, on va en parler pendant les émissions draft. Les émissions draft arrivent, hein, c'est novembre. Ça va revenir petit à petit. Sam Howell ou Matt Corral à la draft pour les Broncos, Nico, je ne peux pas te dire, je n'ai pas encore assez étudié le dossier. Ding Chavez, est-ce que je crois encore à Cam Newton? Écoute, je sais pas pour moi, mais visiblement pour les équipes NFL, c'est très très compromis de croire à Cam Newton. Hein. Un fauteuil sur les joueurs ayant joué dans le plus d'équipes, demande Matt. Je me demande si on l'a pas déjà fait. J'ai un doute là. Un doute. Ouais, pour. Alors, Chubb et Miller sont-ils toujours des atouts pour Denver, Clems? Bah, il y en a un qui a du mal à rester sur le terrain, il y en a un qui vieillit. Je sais pas. Mais c'est marrant parce que ce duo infernal Chubb-Miller, j'ai l'impression qu'on l'a beaucoup attendu, mais je sais pas à quel moment ils ont vraiment été à pleine puissance sur une saison complète.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je suis pas sûr, quoi. Je suis vraiment pas sûr. Allez, on va avancer un petit peu. Les Broncos sont cata quand même quand tu vois toutes les absences chez les Brands, dit Sir Buteux. On est d'accord. Un Matt Ryan pour une pige de 2 ans, ça pourrait aider. Le mec s'embête à Atlanta, dit Nicolas. C'est pas la solution. Il a passé ses meilleures années, Ryan, maintenant. Donc, il sera un peu meilleur que Bridgewater, mais c'est pas la solution, franchement. Rodgers, oui, bah là, il y avait la. Je suis désolé, des fois le chat saute. Quelqu'un a dit Rodgers. Coucou Miami. Rodgers à Denver l'année prochaine, dit Pumpfake. C'était une des rumeurs hein, de cet été. Rodgers à Denver quand il voulait partir. Ce serait d'ailleurs dans la droite lignée de ce qu'aimait bien faire John Elway quand il avait réussi à récupérer Peyton Manning pour ces dernières années. Là, ce serait Rodgers. Ce serait un bon coup. Il est en fin de carrière, mais pour le coup, lui, il est à un niveau bien supérieur à Matt Ryan. Donc, pour le coup, Rodgers, oui, pourquoi pas. Mais sinon, il va falloir drafter bien. Mais drafter bien, ça peut être au deuxième ou troisième tour, et ça peut arriver. Mais voilà, Derek Carr est deuxième tour. Aujourd'hui, c'est un titulaire solide. Russell Wilson est un troisième tour. Il y a pas mal de bons exemples. Et des fois, les drafts qu'on annonce faibles arrivent quand même à donner des pépites. Donc ça pourrait être pas mal. Si les Saints sont laissés partir Bridgewater, c'est pas par hasard, dit FMZ. Oui, il tourne et voilà. Kyle Pitts réclame à ce qu'on parle tight end. Il a bien raison, Flo07. On va aller sur les tight end. Est-ce que c'est vraiment envisageable une NFL sans kicker dans quelques années, demande la bière autrement, Ben, je mélange tout. Alors, quelqu'un? Quoi? Pardon? Il se passe des choses bizarres dans le chat. Donc, sans les kickers, ça m'étonnerait. Ça, c'est mon souhait, mais ça m'étonnerait. Coucou de Alain et sa grand-mère. Ok, bah bonjour Alain. Ah, mais oui! Je crois voir lequel, Alain. Ok. Et ben, bonjour à tous les deux. Du coup, ça fait plus de pression maintenant. D'accord, je crois savoir qui me regarde. Donc, on disait quoi? On parlait des questions et on parlait du thème de la semaine. Le thème de la semaine, c'est donc les tight ends. Les tight ends, vous ne le saviez peut-être pas, je l'ai dit, mais c'est le National Tight End Day. La journée a été créée en 2019. C'est le quatrième dimanche d'octobre et c'est surtout un prétexte pour parler donc des meilleurs tight ends de l'histoire et des 5 meilleurs. On va se limiter au 21e siècle. Pourquoi? Parce que je suis pas assez vieux pour avoir vu jouer les autres. Voilà pourquoi. Hein, on va pas se mentir là-dessus. Je suis pas fan de parler de joueurs que j'ai pas vraiment vu jouer et donc pour lesquels j'ai pas vraiment un feeling. J'ai pas envie de jouer aux faux experts à vous dire Mike Ditka dans les années 60, c'était incroyable. Tout ça. Je vous réfère et je vais le mettre dans le chat le lien. Hop là. Donc le lien que je vous mets dans le chat, c'est vers un article de Victor Roulier en 2019 sur le site, sur TD Actu. Il y a un petit rappel et je vous mène un petit peu dans cet article. Je vous mène un petit peu dans cet article, donc écrit par Victor. Petit rappel. Donc au début, les tight ends, c'est des bloqueurs. On les met au bord de la ligne, ils jouent les utilités. Le pionnier au niveau des réceptions, c'est Mike Ditka dans les années 60, 56 réceptions, dès sa saison rookie. La confirmation dans les années 80 et 90, Kellen Winslow, Ozzie Newsome, Shannon Sharpe. Grosso modo, pour vous donner 3 noms. Là, je vous résume grossièrement le papier de Victor, n'hésitez pas à vous le mettre en favori. Et la consécration, 21e siècle, c'est là qu'on va se concentrer au niveau du top 5, parce que c'est dur de comparer encore une fois les époques. Donc, la consécration, l'ère du tight end, c'est le 21e siècle. Encore une fois, c'est tellement incroyable qu'ils ont leur journée maintenant depuis 2019. On va faire le top 5. On va le faire dans l'ordre. Je vais vous le dire. On va pas s'embêter. On va commencer par le numéro 1. Si on parle de Greg Olsen, je vais pleurer. Pas trop, Greg Olsen. Donc, commençons par le numéro 1. Vous êtes plusieurs à le nommer dans le chat. Nicolas a bon, par exemple, et j'ai vu quelqu'un d'autre. Alors, Gronk les mange tous, Gonzalez est juste le plus durable, dit Clems. Je suis pas tout à fait... Alors, Gronk, à son meilleur, il est inarrêtable. Très bien, aucun problème. Mais... il faut pas négliger pour autant Tony Gonzalez, parce que Tony Gonzalez, quand il a joué, c'est une référence incroyable, et je suis désolé, mais la durabilité, ça fait partie aussi de la carrière d'un joueur NFL. Pouvoir être sur le terrain, c'est quand même une qualité dans ce sport où il y a beaucoup de blessures. Tony Gonzalez, c'est 1325 réceptions, 15127 yards et 111 touchdowns. C'est le meilleur de tous les temps sur les réceptions et sur les yards. Il n'y a que sur les touchdowns marqués où il est deuxième derrière Antonio Gates. Mais Gonzalez, parce qu'on me dit oui, Gronk il est incroyable, etc. C'est vrai, je ne vous dirai jamais le contraire. Rob Gronkowski est incroyable. Et vous verrez, c'est pas pour rien que je l'ai mis en deux. Mais il joue quand même avec Tom Brady pendant toute sa carrière. Gonzalez, il fait ça avec des quarterbacks qui s'appellent Elvis Grbach. Grbach, je sais pas comment on dit, ça s'écrit G-B-R-A-C, je crois. Enfin bref. Elvis Grbach, Trent Green, dont le plus grand fait d'armes est quand même de s'être blessé pour laisser la place à Kurt Warner qui a offert le titre aux Rams, qui était un bon quarterback. Rich Gannon pendant une saison, qui passait par Kansas City avant d'aller aux Raiders. Damon Huard et Tyler Thigpen. Voilà, ça c'est les mecs qui ont lancé le ballon à Tony Gonzalez. Donc respectons la carrière de Tony Gonzalez, je vous en supplie. Quand le mec a capté 1325 passes avec des quarterbacks comme Grbach, Green, Gannon, une saison au passage, Damon Huard, Tyler Thigpen, alors heureusement, il a Matt Ryan qui arrive à Atlanta pour les 6 dernières années de sa carrière, donc c'est Gonzalez qui arrive à Atlanta et qui rejoint Matt Ryan. Là, il vit encore des belles années. Et ça prolonge sa carrière de jouer enfin avec un quarterback compétent, parce que c'est dans le pic de Matt Ryan vraiment. Mais voilà, il fait ça. C'est pour moi la quintessence quand même d'un joueur complet, c'est quand il le fait avec tout le monde, quand c'est un receveur notamment. C'est vraiment voilà, c'est vraiment receveur ou tight end qui réussit des trucs comme ça avec des quarterbacks complètement improbables. On peut prendre DeAndre Hopkins hein, sur les dernières années quand il jouait à Houston et qu'il faisait briller des peintres qui passaient par là. Donc voilà. Et alors oui, mais Gronk pour les blocs, excusez-moi, Gonzalez, c'était pas un clampin hein, quand il était sur la ligne, il faisait pas que capter aussi hein. Donc voilà. Donc pour moi, Gonzalez sur le 21e siècle reste numéro 1, rien que pour la durabilité. Il est 6 fois All-Pro, Gronk les 4 fois, il est 14 fois titulaire, il est 16 ans titulaire. Gonzalez, je sais pas si vous vous rendez compte, la durabilité, ça joue. C'est-à-dire que quand vous draftez un mec, si on vous dit il va avoir 4 années de top, et qu'on vous dit, par contre, l'autre, il va être 16 ans titulaire, 14 fois Pro Bowler, 6 fois All-Pro, ça fait réfléchir quand même. Hein. Ça fait réfléchir. C'est pas aussi... Oui, on prend aussi en compte les qualités de bloqueur, il n'y a pas de problème. Mais on prend aussi en compte l'œuvre de travail. C'est-à-dire que sinon, on peut très bien dire, ouais, lui, il avait un talent incroyable, il a duré une année. Mais moi, je vais pas mettre George Kittle au-dessus de Tony Gonzalez, si vous voulez. Faut respecter le boulot du mec. Donc, très bien, hein. Mais voilà, il y a des blessures pour Gronkowski, il y a le fait qu'il a joué quand même toujours dans des équipes très structurées. Donc voilà. Je sais bien que Gronkowski a un bloqueur, etc. Mais excusez-moi, je suis désolé. Il faut avoir regardé Tony Gonzalez jouer. Je vous invite à aller jouer un petit peu. Il n'y a pas de problème. Mais je vous le dis, Gronkowski est deuxième. C'est pas déshonorant d'être deuxième parmi tous les tight ends du 21e siècle. Il est 4 fois All-Pro. Il a 4 titres. Il est inarrêtable quand il est en forme. Il est complet. Il n'y a aucun problème. Je ne vous dis pas. Que Gronk est pas un grand tight end, il y a pas de problème là-dessus. Hein. Mais alors Gronk est clutch. Ouais. Après encore une fois, c'est pas non plus. Il a 4 titres, il a fait plein de choses, mais il a un niveau qui est au-dessus purement dans le jeu, mais sur l'œuvre complète, je peux pas mettre Gonzalez en dessous. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais enfin voilà, faut arrêter avec les. Et je sais que c'est de l'humour, hein, comme dit Pumfake, mais je sais que certains supporters des Patriots m'ont compas de me dire que je suis un vilain hater de Rob Gronkowski. Mais encore une fois, le Gronk a joué 134 matchs, Gonzalez en a 270, et Gonzalez a quasiment deux fois plus de yards à la réception. On parle de 8600 pour le Gronk, 15000. Au-dessus, donc voilà. Et il va arriver beaucoup plus vite sur les touchdowns. Hein. Il est à 90 contre 111. Je suis d'accord. Mais le Gronk a 582 réceptions contre 1300. On est à plus du double pour Gonzalez. Donc je peux pas ignorer que le mec a fait deux fois plus de taf. Mais après, encore une fois, évidemment, c'est un classement qui va bouger. Gronk, il a pas fini sa carrière. Il a que 32, je crois. 31 ou 32. Hein. Il est pas si vieux que ça, d'ailleurs, Gronk. Mais voilà. Donc, et j'adore Rob Gronkowski. Il y a aucun problème là-dessus. Pour avoir eu la chance de le croiser, interviewer, etc. C'est une crème. C'est un joueur génial. Et c'est un joueur incroyable. C'est un joueur sur le talent pur, sur le pic, etc. Top niveau. Voilà. Sur un match, à leur prime, est-ce que je prends Gronk ou Gonzalez? Je prends Gronk. Si ça peut rassurer ses supporters. Mais aujourd'hui, si je fais un classement des tight ends du 21e siècle, l'impact de Tony Gonzalez est au-dessus. Donc voilà. Don Essenji le dit aussi, oui, il avait un niveau de jeu incroyable aussi au niveau des mains. Tony Gonzalez perdait peu de ballons. Il y a George Kittle qui me dit que je me justifie trop. Il a bien raison, George, d'autant que c'est un tight end et il connaît le sujet. Antonio Gates en 3, 116 touchdowns de 2003 à 2018. C'est une très belle histoire, Antonio Gates, puisqu'il est non drafté, ce qui est quand même un truc assez dingue. Non drafté, basketteur à la fac. Antonio Gates, il y a eu une petite mode. Je me demande si Jimmy Graham n'était pas ancien basketteur aussi. Il y a eu une petite mode à une époque de prendre des tight ends qui sortaient du... qui avaient fait des facs pour le basket à ce moment-là. Un seul fumble en carrière pour Gonzalez. Vous êtes plusieurs à dire sur le chat, je vous laisse juger, j'ai pas les stats sous les yeux. Donc Antonio Gates en 3, connexion incroyable avec Philip Rivers, carrière de 2003 à 2018, donc là on peut pas être plus 21e siècle. C'est quand même une carrière incroyable. Jason Witten, j'ai vu quelqu'un le mentionner sur le chat, évidemment. Évidemment, Jason Witten est aussi dans le classement, titulaire pendant 16 ans, ultra solide, ultra régulier, ultra complet. 11 fois Pro Bowler, 2 fois All Pro. Oui, alors non, j'ai pas pris Shannon Sharp. J'ai vu qu'il jouait. Quelqu'un dit il a joué au 21e siècle. J'ai vu il s'arrête en 2003, mais j'ai pris quand même le joueur dont la carrière se déroule vraiment. Voilà, en gros. Donc Witten, je disais 16 ans titulaire, 11 Pro Bowl, 2 All Pro, 252 matchs. C'est juste 2 de moins que Gonzalez. 1228 réceptions. Sachez qu'il n'y a que deux tight ends qui ont capté plus de 1000 ballons en carrière pour l'instant. Pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres. C'est Gonzalez et Jason Witten. Voilà, c'est assez énorme. Et 74 touchdowns pour Jason Witten. Donc on est vraiment là aussi sur le top niveau du 21e siècle. Voilà, c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup actuellement en NFL qui sont très bons. Mais on va en reparler un petit peu. Je ne sais pas s'ils sont aussi complets que des Witten, des Gonzalez, voire Antonio Gates, même s'il est un peu moins bloqueur. Mais voilà. Witten, pas aidé par les blessures, pas tant que ça. Hein. 252 matchs en carrière, c'est quand même pas mal. Oui, Witten, il a vu Romo et Prescott. Il l'a même vu qui avant. Il a eu Drew Bledsoe un peu avant Romo, je crois. Mais il est pas mal. Alors, il nous en reste. Donc, je vous ai dit Gonzalez, Gronk, Antonio Gates, Jason Witten, ce qui veut dire qu'il nous reste une place dans notre top 5. Est-ce que notre cinquième est toujours en activité? Parce qu'il y a des très grands tight ends partout actuellement. Deux partout. Travis Kelce, George Kittle, Zach Ertz, dont on a parlé, qui a quand même signé des saisons à plus de milliards. Greg Olsen a été un bon tight end. Après, statistiquement, Greg Olsen, c'est pas non plus la folie. C'est un bon tight end, hein, mais c'est pas le top niveau. J'essaie de le chercher. Oui, Olsen, c'est 2007 à 2020, 13 ans. C'est un bon tight end, mais c'est pas un tight end exceptionnel. Il a, je voudrais pas dire de bêtises, 742 réceptions, 8600 yards et 60 touchdowns. C'est un très bon tight end, mais il est pas top 5. Oui, Witten n'a loupé aucun match, Nicolas. Je me disais bien, ouais, il était plutôt connu. Hein. Donc, Kelce, en gros, voilà, c'est du choix là si on prend l'actuel. Kelce, Kittle, Ertz, Waller, Kyle Pitts, Mark Andrews, ça c'est la nouvelle génération, donc on n'est pas dedans, hein. Kyle Pitts, Mark Andrews, voilà, c'est plus jeune. Darren Waller, c'est jeune aussi, c'est-à-dire que c'est un très bon tight end, mais je peux pas le mettre dans un top 5. Encore une fois, je vous parle d'un top 5 du 21e siècle. Je peux pas mettre Darren Waller tout de suite avec les Gronk et les Gonzalez. Donc, si je me prends purement statistique, aujourd'hui, de toute façon, Travis Kelce est au-dessus de tous ceux que je viens de nommer. Parce que il est à 600, j'ai fait une énorme erreur dans mes notes. Il est à 650 réceptions et 52 touchdowns. J'ai pas les yards parce que j'ai fait une coquille. Mais voilà, il est très très haut. Hop, il est à 8349 yards. Voilà. Donc il est seulement derrière des Hall of Famers comme Ozzie Newsome, Kellen Winslow, Rob Gronkowski, Jason Witten, Shannon Sharpe, Dave Casper, Antonio Gates, Tony Gonzalez. Sinon il y a personne d'autre qui est devant lui dans les joueurs actuellement en activité pour Travis Kelce. Donc voilà. Et pour ce qu'il représente, c'est-à-dire pour moi des tight ends qui sont encore plus hybrides, parce que là on est passé vraiment encore plus receveur que Gronk, que Gonzalez, que Witten. C'est quasiment des receveurs, quoi. Kelce, Waller, Kyle Pitts. C'est, voilà. Je suis pas ultra fan. Ce qui est assez marrant d'ailleurs avec Travis Kelce, moi, ce que j'ai halluciné. Alors, évidemment, les données officielles sont pas toujours hyper exactes, mais sachez que Travis Kelce, il fait officiellement la même taille et le même poids que Tony Gonzalez. L'impression sur le terrain est pas tout à fait la même. Travis Kelce a l'air un peu plus vif et moins massif. Mais ouais, donc j'irai sur Travis Kelce pour compléter le top 5. Ariel 32 a raison de mentionner Jimmy Graham, mais Jimmy Graham, en fait, c'est une drôle de carrière, parce que Jimmy Graham, c'est en effet deux années où il est au top avec New Orleans. C'est 2-3 ans, il est en activité depuis 2010, je vérifie pour pas dire une bêtise. Il a deux saisons seulement à plus de milliards, en fait. Jimmy Graham, 2011, 1300 yards, 2012, 982 yards, 2013, 1200 yards, et derrière, 889, 605. Il a une saison à 923 avec Seattle en 2016, et depuis 2017, 520, 636, 447, 456. Jimmy Graham, il a été au top pendant 3-4 ans avec New Orleans, mais il est loin quand même de la régularité des autres. Il était exceptionnel, hein. Il a 82 touchdowns en carrière, ce qui est immense. Mais il est quand même assez loin de la régularité des autres. il est vraiment assez loin de la régularité des autres. Après, évidemment, il y en a plein qui sont... Oui, la vie est plus facile avec Brees, dit Ginou. Oui, c'est possible que ça ait joué. À part Gonzalez, ils ont joué la majorité de leur carrière avec des top quarterbacks. Oui, Philip Rivers pour l'un, Tom Brady, Jason Witten a eu des bons quarterbacks à Dallas, Travis Kelce, Patrick Mahomes, et du coup, il avait Alex Smith avant. Mais oui, ils ont eu pas mal. Ils ont eu pas mal de bons quarterbacks. Vernon Davis, c'était un bon quarterback aussi. Après, on n'est pas là. Pareil, encore une fois, hein, c'est pas là, on est du top 5, on est dans la stratosphère. Vernon Davis a été un des bons quarterbacks de sa génération, évidemment. Je regarde un peu ses stats à l'ami Vernon. Vernon, 583 réceptions, 7000 yards, 73 touchdowns. On est aussi dans un des très bons touchdowns, des très bons, comment ça s'appelle, tight end. Ouais, parce qu'il y en a eu. Évidemment, c'est ce qu'on disait, le 21e siècle, c'est l'âge d'or quoi du tight end. Donc évidemment, hein, maintenant, il y en a plein de bons. Il y a eu plein de bons tight ends, Greg Olsen, Vernon Davis, etc. Donc ça, c'est pas... évidemment, c'est pas honteux qu'il soit pas dans le classement, mais il y en a eu plein de bons aussi. Les pronos, quand même, parce que là, il est déjà tard. Donc, il est 18h48, il nous reste 12 minutes. Donc, je rappelle le top 5 des tight ends du 21e siècle pour ce National Tight End Day. Tony Gonzalez, Rob Gronkowski, Antonio Gates, Jason Witten et Travis Kelce. Voilà. Et évidemment, mention à tous les bons tight ends qui sont passés, notamment ceux actuels. George Kittle, qui est évidemment incroyable, mais qui a beaucoup de problèmes de blessures. Darren Waller, Kyle Pitts, Mark Andrews, qui sont plus l'avenir du poste encore. Voilà, plein de bonnes choses. Je cite où Kyle Rudolph T'es honnête, hein, mais avec beaucoup de hauts et de bas, hein, quand même. Je vois que ça débat sur ma chemise, oui. C'est pas ma faute si j'ai Garoppolo, dit George Kittle. En effet, il avait joué avec Rodgers, le Graham. Ah oui, il est passé par Green Bay aussi, c'est vrai. Mais oui, George Kittle, c'est vrai qu'au moins quand il est blessé, il peut être sur le chat avec nous, ce qui est quand même déjà quelque chose. Aaron Hernandez, sur les stats, il se situe où? Bah, Aaron Hernandez, il a eu une carrière assez courte, hein, donc c'était un très bon tight end. En effet, si on parle du sportif, je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. J'ai un petit problème de trackpad, donc je vais pas pouvoir vous dire. Ah voilà. Aaron Hernandez, je vais vous regarder les stats et puis après je vais passer au prono parce qu'il va déjà être à 10 minutes du coup d'envoi. Ah, mon trackpad a décidé de rendre l'âme visiblement. Donc Aaron Hernandez, bah, c'est que 3 saisons. Donc en 3 saisons, évidemment, il avait fait plein de bonnes choses. Quasiment 2 milliards et 18 touchdowns. Mais voilà, on est en 3 saisons, hein, donc on peut pas construire une carrière là-dessus. Donc. Donc les pronos de la journée, Packers, alors attendez, qui joue chez qui, c'est affiché bizarrement, je vais prendre un autre calendrier, hop là, donc pas mal de, alors il y a des matchs quand même assez déséquilibrés dans cette semaine, mais il y a quelques belles affiches, donc Ravens-Bengals, il y a que 5 matchs à 19h, il y a que 5 matchs, Ravens-Bengals, clairement c'est celui que je vous conseille, je pronostique les Ravens, même si les Bengals ont quand même une belle équipe et qui vont pouvoir faire des choses en attaque. Packers-Washington, évidemment, Green Bay est largement favori dans ce match, donc Green Bay. Miami-Atlanta, match serré, apparemment, alors c'est CBS qui rapporte que ce serait tendu dans le vestiaire du côté de Miami et que Brian Flores serait pas loin de perdre le vestiaire. À suivre, Atlanta est sur une meilleure dynamique, hein. Moi j'irais plutôt sur Atlanta. Patriots-Jets, j'allais dire derby, c'est pas vraiment un derby, mais c'est une rivalité de division. Les Patriots ont l'avantage, hein. L'effectif des Jets est quand même très faiblard cette année. Les Giants contre les Panthers n'arrêtent plus de perdre, mais les Giants sont quand même, il y a énormément de blessés, Saquon Barkley est pas là, Kenny Golladay est pas là, Kadarius Toney n'est pas là, donc je vais aller sur les Panthers. Titans Chiefs, très belle affiche de 19h, c'est vrai qu'il y a celui-là aussi quand même, très offensif ce match, je vais aller sur les Chiefs, mais attention. Attention. Rams Lions, ultra déséquilibré, les retrouvailles entre Matt Stafford, Jared Goff, leurs anciennes équipes et tout le monde. À 22h05, je vais sur les Rams. Raiders Eagles, c'est quand même plutôt avantage Raiders sur ce match. Cardinals Texans, toujours à 22h, plutôt avantage Cardinals quand même. Il y a très très grand écart aussi. Et Buccaneers Bears, là aussi, match avec très peu de suspense. Donc on va dire Tampa. Et le match de la nuit, 49ers Colts, celui-là est plutôt équilibré. Mine de rien entre ces deux équipes, j'irai sur les Colts A priori, j'irai sur les Colts a priori. Et je vois que Wilfried troll un peu en parlant de Tim Tebow, évidemment, pour les tight ends. On va faire les cotes Unibet avant de passer à la fin de vos questions et de terminer tranquillement l'émission là-dessus. Hop là, excusez-moi, j'ai oublié de prendre mon ardoise. Que c'est pratique ce décor où tout est à portée de main. Parce que comme ça, même quand on a oublié... oui, il y a beaucoup de blessés à Tampa Bay aussi. Tarz Velder, ni manque Antonio Brown, ni manque Rob Gronkowski. C'est Seahawks Saints mardi, c'est vrai que j'ai pas fait le prono du Seahawks Saints. Moi, j'irais plutôt sur les Saints, évidemment, puisque pas de Russell Wilson. Et meilleure défense du côté de New Orleans. C'est bizarre. Donc... quel match je regarde? Très bonne question. Moi je regarde ce que je veux en fait ce soir, parce que enfin à 19h en tout cas je regarde ce que je veux, puisque tous les résumés sont pris dans l'équipe, donc je vais rien faire. C'est pas vrai, je fais des trucs évidemment, rassurez-vous. Et à 22h je sais plus, j'en ai un. Donc je vais regarder le Red Zone probablement à 19h. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, les cotes Unibet, on avait dit ça. Donc je vais cliquer moi-même sur le lien du chat parce que j'avais pas ouvert le lien et je vais donc partir sur les cotes. Alors excusez-moi, je suis un peu perdu sur le site, voilà. Donc les cotes Unibet, qu'est-ce qu'on a ce soir? Ouf, les Bengals à 2,98, c'est haut hein. Tiens, moi j'ai dit que j'y croyais pour eux parce que on va dire que je tire sur l'ambulance à chaque fois. 1,74 Atlanta contre les Dolphins. 1,74 Atlanta contre les Dolphins. Les Titans sont à 2,52. C'est, j'aime jamais parier contre Patrick Mahomes, mais c'est pas un pari qui est complètement dingue. Celui-là, j'y crois aussi. On va dire, les Raiders, ils sont à 1,75. 1,75 pour les Raiders. Et puis, eh ben voilà, j'ai dit que je pariais sur, je les pronostiquais, donc, allez hop, Carson Wentz et les Colts à 2,40 contre les 49ers. Pas mal ça. Donc voilà, et je vous fais le petit combiné à trois équipes. Le combiné des trois équipes. Je vous rappelle, hein, pas obligé de jouer en combiné, vous pouvez les jouer à l'unité. 36,54, je ne sais pas écrire. C'est une catastrophe. 36,54 pour 5 euros misés. Raiders, Colts, Falcons sur le combiné. Et les Flying Cochons d'Inde sont à 3,82, si ça vous intéresse, mais ça paraît compliqué. Tiens, un Baltimore Ravens, Bengals, qui va marquer un touchdown? J'ai dit que c'était 2-10, Lamar Jackson, marqueur. Et si vous voulez de la grosse, oh, elle est pas si grosse que ça, mais un Devonta Freeman à 2,30, sachant qu'il va être coureur titulaire en l'absence de à peu près tous les autres coureurs de Baltimore, puisque je vous rappelle, hein, blessure en pagaille chez les coureurs de Baltimore, même chez Latavius Murray, qui était le dernier à avoir pris le relais. Joe Mixon est à 2,75 et Jamar Chase est à 3,30 pour Jamar Chase, qui est quand même plutôt sur une bonne série en ce moment. Satané gaucher, dit Philippe, oui je suis désolé. 2 semaines de suite sans perdre pour les Jags, et oui ça c'est en effet comme ils jouaient pas la semaine dernière. Donc, le meilleur coureur est toujours là, oui. Pareil contre les Chiefs, ça se tente. Ouais, en ce moment, ça se tente. Allez, 18h55, deuxième indice pour le joueur mystère. Le premier, c'était 126. 1, 2, 6. Le deuxième, c'est Cousinade. Donc, 126 et Cousinade pour les indices. Je rappelle, c'est concours@touchdownactu.com. Je vous le mets dans le... Hop, et vous mettez votre pseudo, et donc vous mettez quoi votre pseudo, et je disais quoi votre pseudo Unibet, et la réponse, voilà, je vais y arriver. Alors, Mark Andrews, a combien, je l'ai plus sous les yeux, je l'ai sous les yeux, Mark Andrews, je l'ai pas Mark Andrews, ah ben non, il est pas dans les marqueurs de touchdown Mark Andrews. Si, 2,30, pardon, il était tout en haut. Ok, sur Chiefs Titans, il faut jouer la cote. La bière, ouais, 18h56. La bière. Yeah, elle est au milieu du trépied. Donc la bière, j'avais dit la semaine dernière que j'avais un carton de bière Les Deux Amants, qui est une excellente brasserie normande avec des étiquettes plutôt rigolotes en plus. Il était une fois Robert, le père, Mathilde, sa fille et Raoul l'amoureux. À la fin, ils meurent tous. Heureusement, il nous reste Arnold, père de Raoul et Marcel, bodybuilder en fin de carrière et président du country club. J'aime beaucoup ce genre d'histoire. Donc une bière qui s'appelle la Arnold et qui est une double IPA. Je sais pas avec l'éclairage si ça se voit bien. Ouais. Je suis un peu bas. Donc double IPA Arnold, plutôt très bonne, Très bonne. Je suis pas un grand amateur d'IPA à la base, mais là les doubles, Raphaël m'en a offert une de la brasserie de Paris il y a quelques temps qui était très bonne aussi. Et cette double IPA est plutôt très bonne. Voilà, et elle est bio tiens en plus. Voilà, j'avais pas vu. 8% d'alcool. Et c'était pas mal. Petite confession, la semaine dernière, j'ai bu une bière après le fauteuil. Je me suis fait une Guinness avec un Magnum chocolat vanille pendant l'émission, pendant les matchs, à mon bureau. Et c'était pas mal. Le soir, comme ça, petite lumière tamisée en travaillant, c'était pas mal. Merci Hugues pour ton compliment sur ma chemise. Je me mets enfin à la double IPA, oui, bah oui. Non, mais je teste, hein, y a pas de souci. Y a pas de souci. Donnez-moi les refs, envoyez-moi des mails, des Twitter, des machins, et je tente. Quelqu'un m'a envoyé des refs de bière allemande la dernière fois, il faut que je les trouve. Après, j'en bois pas des camions par semaine, donc, je suis limité, mais voilà. 18h58, vous avez encore le temps pour... Alors attendez, je vérifie que j'ai rien oublié, les codes, tout ça. L'émission vous était présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne. N'hésitez pas à aller y faire un tour, je vous le rappelle. 2 minutes de freestyle. Donc là, on fait ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous lancez un thème. Est-ce que j'aime l'eau de vie? Ah ouais, non, ça, je sais pas. J'ai jamais goûté. Je crois pas que j'ai déjà goûté. Ça arrache, non, ça? Non. Sylvanus Triple. Alors par contre, Flo, le... Comment dire? Le... Ah! Je vais pas y arriver. Ah oui, donnez les références, voilà. Pas dans le chat, envoyez-moi des messages parce que le chat disparaît en fait. Donc je peux pas remonter tout le chat. Un prono pour PSG-OM. J'en sais rien. je sais pas, le PSG ils sont forts, non? Ils ont tous les joueurs super forts. Donc je suppose que c'est eux. Allez, on va vous faire un envoi. Pourquoi Philippe du coup? Ah, l'eau de vie. Ah ouais, mais c'est genre c'est ultra fort dans l'eau de vie. C'est genre ça débouche tout, non? Bref, 18h59, moi je suis à l'heure de mon ordinateur, je suis désolé, vous avez 19h, moi je suis désolé, j'ai 18h59, je sais pas comment ils sont mis les trucs Apple à jour, là. C'est pas le satellite du 21e siècle. Gabriel, bonne soirée également, ça commence le Red Zone, dit Gus, il y a un décalage, oui, il y a toujours un décalage, ah oui, mais c'est vrai, il y a un décalage, moi le temps que j'en vois, en plus j'ai un écran de contrôle, c'est vrai que je vois que ça arrive après, bref. Donc oui, dans le futur, au moment où vous me regardez, les 19h. Et donc vous allez filer. Tarsvelder, Degan, bonne soirée à tous. Merci à vous pour ce fauteuil. Il est 19h01 dans le futur, au moment où vous me regardez. Quelqu'un dit sur le chat, c'est 7x7. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. J'ai balancé sur les bengals. Ah bah oui. Pour ça qu'ils pensent que je commence en retard. Ah oui, c'est possible, ça c'est vrai, tiens. Il faudrait que je commence à 59 pour que vous ayez l'impression que c'est à 18h. C'est bien vu. Bonne soirée à tous. Il est 19h sur mon horloge, donc vous voyez la sécurité, il doit être 19h01 chez vous. Je vous souhaite une très bonne soirée, de très bons matchs. Merci à tous. Merci Damien, merci Philippe, merci à tous. On se retrouve dimanche prochain pour un prochain fauteuil. Ciao ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.